Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le cinéma, une arme de projection politique. Bonjour Nachidi Lerouaille.
Bonjour Hervé Gardet.
Vous êtes docteur en géographie politique et culturelle, chercheuse au laboratoire GRAP, chercheuse associée au laboratoire Espace Nature et Culture qui est rattaché au CNRS, et vos travaux portent notamment sur la portée géopolitique du cinéma. Alors qui obtiendra la Palme d'Or? La 72e édition du Festival de Cannes s'achève ce soir. Et comme chaque année, les films en compétition officielle auront incarné une certaine idée de la mondialisation. Outre la France et les États-Unis, les mieux représentés, on y aura vu des films brésiliens, sénégalais, roumains, chinois, coréens ou encore belges. Avoir un film représenté à Cannes n'est pas anodin pour un pays. C'est une forme de reconnaissance symbolique de sa propre existence et une indication de ce que pèse le cinéma national sur l'échiquier mondial. Enfin, de ce qu'il pèse artistiquement, car commercialement, c'est une autre histoire. Hollywood reste la première puissance cinématographique mondiale de par la diffusion planétaire de ses productions. C'est même le principal outil de son soft power. Au XXe siècle, le cinéma fut même instrumentalisé directement par le politique en produisant des films de propagande, notamment pendant les périodes de conflit. Désormais, les procédés sont plus subtils, mais pas moins efficaces. La Chine, en pleine compétition commerciale face aux États-Unis, en est une bonne illustration. Et l'Europe, dans tout ça, le cinéma, une arme de projection politique, c'est donc le thème de cette émission. En votre compagnie, Nachidi Lerouaille, alors commençons par l'actualité de ces derniers jours et de ce week-end, avec la fin du Festival de Cannes. Est-ce que c'est un rendez-vous qui, selon vous, a une importance politique pour la France, c'est-à-dire ça lui permet d'être visible et d'être visible autrement, c'est-à-dire sur le plan culturel, pour le monde entier?
Oui, absolument. Les festivals, et notamment un grand festival comme l'est le Festival de Cannes, sont des outils de projection très importants pour une nation. Vous l'avez dit, c'est non seulement important d'être projeté pour un producteur, pour un réalisateur, mais aussi pour la nation, d'avoir des films en compétition dans ce genre de festival, mais c'est avant tout important pour la nation qui l'accueille. Et évidemment, le Festival de Cannes, comme d'autres festivals européens ou d'autres cérémonies également qui ont une portée médiatique internationale, sont des vecteurs de puissance et de représentativité culturelle assez importants.
Et peut-être aussi une représentation de son propre modèle culturel. Il y a un mode de financement du cinéma qui est très lié à la France. Il y a l'exception culturelle, donc ça permet peut-être d'afficher ça de manière régulière, annuelle en tout cas, avec ce Festival de Cannes. Alors ce modèle, il résiste, enfin il essaie de résister tant bien que mal au modèle dominant, à savoir le cinéma hollywoodien, ses blockbusters et ses super-héros.
J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière.
Alors, les puristes vont s'arracher les cheveux puisqu'on diffuse en version française un film américain, Avengers Endgame. C'est un film qui cartonne sur tous les écrans du monde entier aujourd'hui, Nachidi Lerouaille. Le super-héros américain, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est peut-être le meilleur ambassadeur des États-Unis aujourd'hui?
On pourrait le dire, c'est vrai que alors les super-héros ne sont pas nés avec le cinéma, ils sont nés avec la bande dessinée. Ils sont nés à un moment donné où l'Amérique était dans une situation compliquée, c'était entre le krach boursier de 1929 et puis la Seconde Guerre mondiale, et la figure du super-héros a été mise en avant comme le symbole de cette Amérique conquérante, de l'Amérique qui allait de l'avant et de l'Amérique à qui il ne pouvait aussi rien arriver, parce que l'une des principales caractéristiques du super-héros, c'est qu'à la fin il va gagner. Donc il est vrai que aujourd'hui la figure du super-héros est une figure essentielle pour les États-Unis. Et on peut le voir, ça a été notamment à travers la figure de Captain America qu'on retrouve dans ce fameux Avengers, qui est une figure très intéressante, parce que là, si on parle de lien entre politique et cinéma, c'est vraiment la figure du soldat qui va sacrifier sa vie, ou en tout cas qui met sa vie en danger pour sa nation, c'est une figure qui a été aussi reprise par la politique, notamment dans des affiches de propagande, pour pouvoir recruter des soldats américains. Donc on voit que, autant sur le plan intérieur que sur le plan international, les super-héros sont une figure majeure du soft power, en tout cas de l'influence américaine.
Oui, parce qu'il le fait pas patriotisme pour sauver sa nation, mais aussi assez régulièrement pour sauver la planète. Est-ce que ça dit aussi quelque chose de la façon dont les États-Unis perçoivent leur rôle justement à l'échelle mondiale ?
Oui, je pense que, en effet, notamment à travers des figures comme Superman, qui, tout au long de son cycle, de sa vie de super-héros, a été là pour apaiser les tensions du monde. Donc oui, c'était pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Et c'est vrai que les super-héros, à partir notamment de la guerre froide, ont été des figures de gendarmes du monde. Et en effet, on peut faire un lien très très facilement avec la politique américaine. Quoique, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une inflexion par rapport à la figure des super-héros. On le voit dans Avengers, sans spoiler aucunement, dès le départ, on voit vraiment des figures beaucoup plus humaines de ces super-héros qui sont finalement aussi un peu comme nous. Donc déjà, une manière de les représenter un peu différente. Et puis, avec d'autres types de blockbusters qui commencent à émerger, et je pense bien sûr au Marvel Black Panther, qui nous montre une autre manière qu'à l'Amérique de se penser elle-même et de penser la politique, et qui a le mérite de, pas forcément de manière très fine, mais en tout cas de poser des questions politiques assez intéressantes, que ce soit certaines critiques du protectionnisme à la Trump ou du colonialisme occidental.
Donc, est-ce que ça, Nachid El Rouaï, ça vaut pour tous les modèles cinématographiques nationaux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en regardant ce que sont les grandes tendances du cinéma dans chaque pays, tirer une même règle, c'est-à-dire que c'est une façon de se projeter, de dire ce qu'est ce pays, de le dire d'abord peut-être alors justement à ceux qui y vivent, et de le dire également au reste du monde. Ça vaut pour tous les modèles ?
Ça vaut pour pratiquement tous les modèles, parce que en effet, les cinémas nationaux sont généralement souvent aidés par les pouvoirs politiques, de manière très directe ou de manière assez détournée. Généralement, le pouvoir politique donne son aval pour pouvoir diffuser tel ou tel film. Et du coup, je pense que si on regarde les cinémas nationaux, on peut voir une certaine manière de se représenter soi-même et de se représenter soi-même vis-à-vis des autres. Mais on peut voir également, et ce qui est assez intéressant, c'est l'émergence aujourd'hui d'autres mouvements cinématographiques qui passent par d'autres canaux de diffusion, et je pense notamment à Internet, qui sont des films souvent critiques qui ne peuvent pas accéder au marché national et encore moins au marché international via les canaux de diffusion du type cinéma, et qui disent aussi beaucoup sur la politique des nations.
Alors vous disiez ça peut se faire dans certains cas avec, on va dire, une forme de coopération avec l'État qui est plus ou moins directe. Est-ce qu'on est capable de dire si ça fonctionne plus ou moins bien selon que, on va dire, cette projection de l'image d'un pays, elle est faite de manière délibérée et de manière très politique, ou bien si on laisse plutôt au cinéaste le soin de se charger de ce soft power mais sans que ça soit affiché comme tel?
Il semblerait tout de même que toutes les entreprises propagandistes sont perçues comme telles. Il faut quand même, on est en train de parler de cinéma et de politique et de l'impact politique des films, mais il faut quand même acter dès maintenant le fait que, évidemment, les spectateurs peuvent être critiques vis-à-vis des films qu'ils reçoivent, et notamment des films qui sont aujourd'hui très clairement soit propagandistes, soit avec un discours extrêmement patriotique. Généralement, c'est des choses qui se voient assez facilement et qui marchent moins que d'autres types d'influences, comme vous le disiez, des influences plus détournées, où ce qui va être mis en avant, c'est plutôt la beauté du pays, les icônes métropolitaines, par exemple, la puissance financière de tel ou tel État à travers, je pense à New York, je pense à Hong Kong, je pense à Shanghai, pour différents... Voilà. Du coup, cette manière détournée de montrer la puissance à travers des films qui ne sont pas politiques, ou en tout cas qui sont apolitiques de manière de façade, disons, est aujourd'hui beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, a beaucoup plus d'impact sur l'influence.
Voilà, clairement. Vous dites aujourd'hui, parce que c'est vrai que par le passé, il a pu y avoir, enfin, il y a eu des films qui étaient véritablement des films de propagande, Nachidil Rouaille. Peut-être aussi que les spectateurs et les spectatrices aujourd'hui sont un petit peu moins naïfs par rapport aux images qu'on leur renvoie. Ces films de propagande, eh ben, on les retrouve notamment dans des périodes de conflit. Ça a été le cas, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on reste à Hollywood. Entre 1942, par exemple, et 1945, il va y avoir une série de films qui sont vraiment là pour supporter, on va dire, l'effort de guerre américain. Série de films intitulée « Why We Fight ».
Causes and events leading up to our entry into the war. Well, what are the causes? Why are we Americans on the march? Is it because of... Pearl Harbor? Is that why we are fighting?
Nachidil Rouaille, vous qui parlez anglais couramment, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Qu'est-ce que c'était que ces films dont un fut primé aux Oscars ?
Oui, tout à fait. Donc là, on est en train d'entendre Why We Fight, le premier opus de Why We Fight.
Why We Fight, c'est Pourquoi nous combattons ?
Exactement, Pourquoi nous combattons ? Et donc le premier opus, c'est Prelude to War, donc le prélude de la guerre, le prélude à la guerre. Alors c'est intéressant parce que ce film-là, cette série de trois films que vous avez dit en effet ont été réalisés et projetés entre 42 et 45, ont été réalisés par Frank Capra qui a lui-même supervisé les services cinématographiques de l'armée américaine. Et cette série de films célèbre l'idéal démocratique des États-Unis. Et dans ce premier opus, Prelude to War, ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est avant tout destiné à un public intérieur et notamment aux soldats eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on montre les raisons de la guerre et pourquoi s'engager, pourquoi aller faire la guerre, pourquoi soutenir cette politique militaire. Dans un deuxième temps, au-delà des militaires eux-mêmes, c'est pour faire en sorte que la population puisse soutenir l'effort de guerre américain. Donc on voit là très clairement la politique centrale dans ce film-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier opus a obtenu l'Oscar du meilleur film documentaire en 1943, ex aequo avec un autre film qui est The Battle of Midway, qui est un film de John Ford et qui couvre les événements de la guerre dans le Pacifique. Donc exactement le même type de film qui est, du coup, pour The Battle of Midway, un film en couleur qui montre des scènes de bataille assez épiques et avec la voix en voix off de Henry Fonda qui du coup à nouveau voilà starification en plus de cet univers-là.
Ça veut peut-être dire d'ailleurs que pour que les films de propagande, alors même si vous dites que ça a évolué bien sûr depuis qu'on est plus aujourd'hui dans le soft power, mais pour que ça fonctionne, il fallait quand même qu'il y ait une véritable qualité cinématographique. Il y a un autre film qui est très souvent cité quand on parle de propagande et de cinéma, c'est le Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Ça date de 1926, où ça raconte la révolte des marins du cuirassé Potemkin. Une sorte de modèle, peut-être, justement, de ce qu'il fallait faire, en tout cas. À l'époque, je crois même que Joseph Goebbels, ministre de la propagande du pouvoir nazi, en avait fait une sorte de modèle qu'il essaya lui aussi de dupliquer parce qu'il était très très investi dans la production cinématographique sous le régime hitlérien.
Ouais, c'est vrai que c'est vous le dites, hein, c'est pas né pendant la Seconde Guerre mondiale, ça. C'est en fait les liens entre le pouvoir et le cinéma datent pratiquement de la naissance du cinéma. Vous parlez en effet du Cuirassé Potemkin. Dans le cas hollywoodien, on a d'autres exemples et notamment The Birth of a Nation qui
Naissance d'une nation.
Je vais les dire en français, ce sera plus simple en effet. De David Griffith qui a été tourné en 1915 et déjà c'était un film du coup très polémique aujourd'hui mais qui glorifiait à l'époque le pouvoir militaire américain et qui a reçu le soutien de l'armée. On peut penser aussi à pendant l'entre-deux-guerres le film Wings, donc les ailes de William Wellman en 1927 qui exaltait l'héroïsme des combattants américains. Et à nouveau, l'objectif là, c'était de préparer l'entrée en guerre des États-Unis. Donc il y avait un objectif politique très direct, mais avec, vous le dites, une vraie richesse, pas scénaristique, mais en tout cas en termes de réalisation et de production, avec le soutien du pouvoir politique, et non seulement ce soutien-là, mais une implication décisive des structures gouvernementales. En 1942, pour revenir juste à Prelude to War, c'est Franklin Delano Roosevelt qui a fait appel et qui a directement convoqué à la Maison-Blanche les réalisateurs d'Hollywood pour leur demander de participer à l'effort de guerre à travers le cinéma. Donc on est là dans un lien très direct et très affirmé.
Cette exaltation de l'armée Nachidil Rouaï, j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me contredire, que on la retrouve moins dans l'histoire du cinéma français. Est-ce que ça veut dire que la coopération, par exemple, que vous évoquiez, hein, avec ce personnage très emblématique, justement, de cette coopération pendant la Seconde Guerre mondiale, la personne du réalisateur Franck Capra, c'est quelque chose qui est moins présent en France, même si je crois que récemment, je crois, c'était il y a 2 ans, il y a eu un accord qui a été passé entre le ministère des Armées puis la Guilde des scénaristes pour permettre justement aux scénaristes de faire un peu des stages, par exemple, en immersion, pour quand ils parlent de l'armée, qu'ils en parlent de façon peut-être un peu plus fidèle à ce qu'ils faisaient jusqu'à présent.
Oui, tout à fait. Vous avez probablement raison sur le fait que la France a moins investi politiquement en tout cas pendant ces années de Seconde Guerre mondiale et guerre froide. Mais par contre, on assiste aujourd'hui, en effet, à une transformation de ce modèle-là. Depuis notamment les attentats de Paris de 2015, il y a eu un plébiscite du public pour les films de guerre et les films liés à la défense. Et le pouvoir, le gouvernement, a mis en place en 2016 une mission cinéma au sein du ministère des Armées. Et vous le dites, en 2017, en effet, il y a un accord qui a été signé entre le ministère des Armées et la Guilde des scénaristes. Oui, l'idée de cet accord-là, c'est de faire en sorte que le ministère des Armées puisse donner des conseils. C'est des conseils gratuits. N'oublions pas que...
Il faut toujours se méfier de ce qui est gratuit.
Exactement. Mais n'oublions pas que avant cela, le ministère des Armées mettait déjà à disposition des scénaristes et des réalisateurs et des producteurs des lieux de tournage pour pouvoir réaliser des scènes de films de guerre. Mais là, pour le coup, c'était des lieux de tournage payants avec des prix même assez importants. Donc là, on est dans une transformation aussi du modèle économique et qui est très, très affichée de la part du ministère des Armées, qui ne se cache pas que ces fictions peuvent être des outils potentiels de sensibilisation et de recrutement. Donc on assiste aujourd'hui à cette multiplication-là. Et on peut citer quelques exemples, comme Le Chant du Loup,
Qui se passe dans un sous-marin.
Exactement, qui se passe dans un sous-marin, qui est réalisé par Antonin Baudry en 2018, et qui a...
Un ancien du Quai d'Orsay, alors.
Exactement.
Peut-être que ça lui a permis d'ouvrir des portes.
Peut-être, mais en tout cas, il est tombé pile à ce moment-là de cette ouverture entre armée et cinéma. Puis on peut penser aussi au film Volontaire d'Hélène Filière, pareil, en 2018, qui pose sa caméra plutôt sur le parcours d'une jeune femme qui s'engage auprès des fusiliers marins. On assiste à cette multiplication-là en France, donc le constat que vous faisiez est juste, mais peut-être qu'on est en train de transformer ce modèle.
Alors, on parle plus de propagande aujourd'hui, je ne pense pas qu'en tout cas au ministère des Armées, on accepterait d'utiliser ce terme, peut-être même ailleurs, mais pour autant, est-ce que ça a véritablement disparu ? Allons du côté de la Chine, voir ce qui se passe, avec un documentaire, là encore, qui a beaucoup fait parler et qui a attiré à lui énormément de public. Amazing China, évidemment, ce n'est pas dans la langue originale. Écoutez ce reportage diffusé en mars 2018 sur France 2.
Le petit cinéma de quartier en plein centre de Pékin n'a jamais connu telle affluence. Cet après-midi, on s'y presse pour un film événement.
On va voir Trop fort mon pays.
Un documentaire patriotique. Dans la foule aujourd'hui, beaucoup de collègues de travail, ils n'ont pas eu à payer leur ticket d'entrée.
C'est notre entreprise qui nous a invités à aller au cinéma.
Oui, notre employeur a acheté les billets.
Trop fort mon pays, c'est le titre, vante le développement de la Chine depuis 5 ans. Et c'est surtout un film tout à la gloire du président Xi Jinping. Musique martiale, production digne d'Hollywood. Voir ce film est-il obligatoire ? L'une des organisatrices de la séance s'en défend.
Parmi nos employés, tous ne sont pas membres du Parti communiste. Et s'ils veulent voir le film, ils sont aussi invités. En plus, ce film nous donne confiance en nous.
Voilà, reportage de France 2 en mars 2018 autour de ce documentaire Amazing China en version française Trop fort mon pays, version chinoise
Li Hai Le Wo De Guo.
Ce film, est-ce que c'est quelque chose d'habituel dans la production cinématographique chinoise ou bien est-ce que c'est lié aussi, on voit bien que depuis que Xi Jinping est à la tête du pays, il y a la volonté pour la Chine de peser fortement et de manière assez vigoureuse sur la scène internationale?
Alors, c'est pas quelque chose de nouveau parce que la Chine a produit de nombreux documentaires à la gloire du pays qui ont été souvent diffusés sur les chaînes de la télévision publique, CCTV. Et je pense notamment au film documentaire, à la série de films documentaires China Peacekeeping Police, qui est une série documentaire en 16 épisodes, qui a été diffusée en 2005 et qui célébrait les exploits des casques bleus chinois. Et puis on peut voilà penser à plein d'autres docus qui sont mis en avant sur les différentes chaînes du groupe CCTV. Après, ce qui est intéressant en effet, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping depuis 2012, on a une montée de cette production-là, ou en tout cas de ces élans patriotiques qui est brossé un peu dans le sens du poil par le gouvernement. Et en 2017, dans les salles de cinéma, juste avant les séances de films, avant chaque séance, il y avait un petit clip, alors là très clairement un petit clip de propagande qui était projeté, qui vantait la gloire et le rêve chinois et qui mettait en scène 32 célébrités chinoises, dont Jackie Chan, dont Donnie Yen, donc des grands noms du cinéma chinois, qui montrent bien voilà, la volonté de la part de ce gouvernement de mettre en avant la Chine, de faire en sorte de magnifier le pays et de brosser les élans patriotiques qui sont déjà très importants en Chine.
Ça, c'est à usage interne, mais il peut aussi y avoir un usage externe. J'ai vu que le plus gros succès commercial du cinéma chinois, c'est un film d'action qui s'appelle Wolf Warrior 2. Wolf, c'est le loup, Warrior, c'est le combattant. Et alors, ce deuxième opus, je vous lis juste le pitch que j'ai trouvé sur le site Allociné. Un soldat des forces spéciales chinoises reprend le combat pour protéger les habitants d'un pays africain en guerre contre des mercenaires et des trafiquants d'armes. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, quand on sait ce que fait aujourd'hui la Chine en Afrique, de voir que le plus gros succès commercial, c'est un film où des Chinois vont défendre les Africains.
C'est très intéressant. Je reviens là-dessus juste après. Le fait que, en ce moment, sur Netflix, il y a un film aussi chinois qui s'appelle Wandering Earth, qui n'est pas traduit en français, je sais pas. Mais en tout cas, qui met en avant le fait que, voilà, la Chine fait tout pour, c'est un film de science-fiction, ce qui est assez rare en Chine. C'est pas un genre prisé par le gouvernement, mais qui met en avant le fait que la Chine va sauver le monde et va sauver la Terre, et c'est elle qui va faire en sorte d'emmener la Terre plus en avant. Concernant le film dont vous parlez, Wolf Warrior 2, un petit bémol, c'est que, en effet, c'est le film qui a eu le plus de succès, le plus gros chiffre au box-office. Néanmoins, la quasi-totalité du succès commercial s'est fait en Chine.
Cela dit, Anachidi Leroy, il n'y a pas que dans les films de science-fiction chinois que la Chine aide à sauver le monde. Si on prend Seul sur Mars, Ridley Scott, avec Matt Damon, donc il se retrouve isolé sur la planète Mars, il va finir par réussir à s'en sortir grâce à une coopération entre la NASA et l'agence spatiale chinoise. Pourquoi est-ce qu'Hollywood a décidé de donner peut-être cette image de la Chine qui n'est pas forcément une image qu'on pouvait retrouver habituellement dans le cinéma hollywoodien?
Alors la raison, elle est simple, hein. La raison, elle est financière, comme souvent, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. La Chine, c'est aujourd'hui le deuxième box-office mondial, juste derrière les États-Unis. Et en Chine, on a désormais plus de salles de cinéma qu'aux États-Unis. C'est le plus gros parc mondial d'écrans de cinéma. On a 60 000 écrans contre 40 000 écrans aux États-Unis.
Par contre, pas beaucoup de films étrangers.
Et par contre, c'est un marché très protectionniste où légalement, seuls 34 films étrangers peuvent être projetés sur ces écrans-là par an. 34 films étrangers, ça veut dire que pour pouvoir être projeté, c'est le Graal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un producteur hollywoodien ou international, hein, et qu'on veut être projeté en Chine? Il y a trois choses. La première, c'est la mise en avant de la Chine dans les films hollywoodiens, plus généralement dans les films à gros budget à travers le monde. La deuxième chose, c'est la création d'un discours policé ou d'un discours pro-chinois. Et la troisième chose, c'est le boom des coproductions, et notamment des coproductions sino-américaines, pour contourner ces limitations de 34 films étrangers et pour pouvoir être intégrés au marché chinois. Mais ça nous ramène au point 1 et au point 2, c'est-à-dire que ces coproductions vont passer par un organe de censure chinois. De toute façon, tous les films projetés en Chine passent par cet organe-là, et on ne peut montrer sur les écrans un discours ou des images qui déplairaient aux autorités.
Alors je ne sais pas si ça peut donner des idées à un autre grand cinéma qu'est le cinéma européen. Encore que, existe-t-il vraiment ? Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
En ce week-end d'élections européennes, vous avez justement eu envie de vous intéresser à ce que pèse ce cinéma européen, s'il existe, comme je le disais.
Alors oui, j'ai contacté pour le savoir Samuel Douer, journaliste et rédacteur en chef écran à Télérama, qui se trouve en ce moment même au Festival de Cannes, pour l'interroger sur alors un phénomène de plus en plus important ces dernières années, la multiplication des coproductions européennes de films. L'Europe existe-t-elle sur les écrans ? Parvient-elle à créer une image d'elle-même par cette production cinématographique ?
Je pense que ça ne marche pas. Je pense que l'augmentation effectivement claire depuis quelques années du nombre de coproductions européennes dans lesquelles la France joue un rôle important n'a pas d'impact sur une, on va dire, la construction d'une image ou d'une thématique européenne au cinéma. C'est malheureux, mais le poids prépondérant de la France s'explique par le fait que la France est un des rares pays où le cinéma en salle continue de marcher à peu près bien, quoi. C'est-à-dire que bon an, mal an, on est quand même au-dessus des 200 millions d'entrées en France chaque année. Donc il y a de l'argent quand même dans le cinéma français, même s'il y en a moins, et il y a de l'argent pour investir à l'étranger. Et le plus fâcheux même, c'est que en fait la plupart des films européens ne pourraient pas se faire s'il n'y avait pas l'argent français. C'est presque, on vient chercher l'argent français parce qu'on sait qu'il y en a là, et y compris chez des grands auteurs, je ne sais pas si Ken Loach arriverait toujours à faire des films sans des apports français aujourd'hui, par exemple.
Et donc, à défaut d'Europe du cinéma, on peut se demander si ces coproductions européennes ne sont pas plus utiles à la France, à la vision qu'elle se fait d'elle-même en Europe.
Disons que oui, d'une certaine manière, le fait de coproduire des films à l'étranger permet d'exister, et ça permet aussi de mieux placer les propres productions, 100% françaises. C'est-à-dire que ça donne peut-être un meilleur accès dans les salles européennes à ces films français, sachant que le cinéma d'auteur un petit peu ambitieux ne trouve pas forcément beaucoup le chemin des salles à l'étranger. On parle plutôt de soit des grosses comédies populaires, soit à la limite des films d'action que produit Luc Besson. Voilà, par exemple, l'Allemagne est très friande des comédies type qu'il avait pu faire Danny Boone, par exemple. Je sais que les films « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » et sa suite ont eu un grand succès dans de nombreux pays européens, notamment en Italie.
Et donc, en fait, d'une façon plus générale, c'est la question du soft power français qui est posée. Comment la France construit-elle une image d'elle-même à travers sa production cinématographique dans le monde ?
Le soft power français, en fait, passe peut-être de manière indirecte à travers le nombre très important de tournages qui se font en France, qui montre en général une vision assez jolie, en tout cas assez positive de la France. Beaucoup de films sont tournés en France par l'industrie du cinéma indien, alors pour des raisons purement touristiques, on va dire. C'est très Image d'Épinal, mais en même temps, bon, déjà, ça fait travailler des salariés de l'industrie cinématographique française, et d'autre part, mine de rien, ça montre une image très glamour de la France à l'étranger. Et l'autre aspect de soft power, c'est à travers évidemment les coproductions que l'on passe, que les producteurs français, ou toutes les aides que font les institutions françaises, notamment le CNC via l'aide au cinéma du monde, qui permet de faire vivre des cinématographies non seulement en Europe, mais aussi en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Et ça, mine de rien, ça participe de l'influence de la France, c'est-à-dire que c'est un petit peu la France au secours des cinématographies en danger du monde entier, et ça renforce quand même une image très très positive de la France.
Voilà, c'était Samuel Douer, journaliste et rédacteur en chef écran à Télérama.
Une courte réaction pour terminer, Nachidé Rouaï.
Oui, je pense que c'est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soft power, finalement le stade ultime du soft power, c'est lorsque d'autres nations commencent à produire un discours sur vous à votre bénéfice. Voilà, que ce soit des images cinématographiques ou des scénarios cinématographiques, mais en tout cas, ce moment de basculement où on passe vraiment, clairement, de la propagande à une influence réelle.
Eh bien, merci beaucoup Nachidé Rouaï d'avoir participé à cette émission politique. Émission préparée chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Le Gras, avec à la prise de son aujourd'hui Jordan Fuentes. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous signale également, puisqu'on parle de cinéma, qu'à 15h, Une vie, une œuvre sera consacrée à Jacques Tati. Puis que ce soir, à partir de minuit, Philippe Garbide vous proposera une nuit des actrices françaises des années 30. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour Du grain à moudre. Et dans un instant, ce sera le journal de 12h30 sur France Culture.